marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Le micro a doublement le caractère d'une écriture. Il a le caractère d'une écriture littéraire et il est aussi celui qui écrit l'histoire, pour prendre le titre d'une émission.
Regardez la voix.
Je suis toujours fascinée par le fait qu'on reconnaisse ma voix. Ça m'étonne toujours parce qu'on est à une époque où c'est l'image qui l'emporte sur le son tout de même. La mémoire du son, colossale.
Des nuits, des voix, Macha Béranger.
Une voix radiophonique, j'ai la même voix si vous m'appelez chez moi, si vous me parlez chez moi, que devant le micro. Il y a un timbre qui est comme ça, qui n'est pas travaillé, qui est absolument original. Dans le sens, quand je disais original, je m'entends bien. Je n'ai rien fait pour qu'il devienne comme ça.
La voix transforme le corps du mot en chair. Et la radio a le pouvoir d'accomplir cette transformation. Mais bien avant que les hommes ne songent à la radio, ils pensaient déjà que la parole procédait d'un souffle qui passait par la bouche et se transmettait à travers les oreilles, le cerveau et le sang jusqu'à l'âme de l'autre. Les grands récits mythologiques affirmaient que le monde avait une origine acoustique. Et quand, peu à peu, le rationalisme l'emporta, la musique, et le chant tout particulièrement, prirent le relais de la mythologie. Comme la belle voix était celle qui transmettait au cœur des fidèles la parole sacrée, le beau chant est celui qui nous révèle à notre vie intérieure. Ce n'est pas un hasard s'il a tenu une telle place dans les débuts de la radio et si elle entretient encore des cœurs. Alors aujourd'hui, nous dit-on, la radio serait appelée à entrer dans un dispositif de médias global où le visuel l'emporterait. Un petit fait significatif, vous ne le savez peut-être pas, mais dans les studios de radio, comme d'ailleurs dans certaines salles de rédaction des journaux écrits, sont installés maintenant des écrans qui diffusent en permanence les chaînes d'information continue, dictature du visuel. Mais la marche de l'histoire se prive aisément de ces écrans, elle peut se concevoir autrement. En fait, ici, on va s'en tenir à la position de l'enfant qui, lorsqu'il vient au monde, reconnaît la voix de sa mère, bien avant de s'en faire une image, la voix primordiale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Et comme premier invité de cette rentrée, de cette émission un peu manifeste, je l'ai dit, Marie-France Castaret, bonjour.
Bonjour.
Qui est psychanalyste, oui. Et a publié de nombreux livres aussi sur la voix et ses sortilèges, sur la voix en chœur, parce que vous êtes choriste également, Marie-France Castaret. Mais retenons d'abord l'expérience de la psychanalyse. La psychanalyse, ça peut avoir avec l'histoire. La voix, c'est le fleuve qui revient à la mer.
Bravo, c'est une belle citation. En tout cas, dans le livre que j'ai écrit sur ce thème, j'ai tenu à montrer, et grâce à mon directeur de thèse Didier Anzieux, qu'avant le miroir visuel, décrit par Freud, repris par Lacan, qui a parlé d'un stade du miroir, et là il s'agissait bien sûr du regard, eh bien nous avons le miroir sonore. Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment, le bébé entend dans le ventre de sa mère la tessiture de sa voix. Et on sait que, par exemple, si on met un bébé après la naissance avec un autre groupe d'enfants et qu'on entend plusieurs voix des mères de chacun d'entre eux, il va reconnaître celle de sa propre mère. Voilà, donc c'est assez étonnant de voir que c'est son premier attachement.
Dès 6-7 mois, au-delà du battement du cœur de sa mère, il reconnaît dans son ventre, sa voix.
C'est-à-dire qu'il apprend à la connaître. Mais je parlais d'après la naissance où il la reconnaît parmi d'autres.
Alors, une expérience.
Oui.
Vous citez dans La Voix et ses sortilèges, j'ai oublié de dire que c'était aux Belles Lettres. Les Belles Lettres, c'est une maison d'édition qui s'intéresse beaucoup à la voix. Vous citez Pierre et le Loup. Alors voilà, le grand-père, parce que la voix du père, la voix du grand-père, ça peut avoir son importance aussi. Voilà, le grand-père est une longue phrase de Basson, dont vous indiquez que la bande de fréquence est inférieure à 2000 Hz.
Tout à coup, grand-père apparut.
« expérience, disais-je. On fait entendre cette phrase à un bébé dans le ventre de sa mère, il a 7 mois.
Oui. Et alors, il faut dire que dans la musique de Prokofiev, la voix exprimée par le basson est celle de ce qu'on l'a appelé le grand-père. C'est une raison pour raconter que le bébé peut aussi reconnaître la voix de son propre père dans le ventre, à condition que le père s'approche voilà, du ventre de la mère et qu'il puisse converser avec l'enfant. Il la reconnaîtra après la naissance aussi, celle de son père, avec moins d'autorité que celle de sa propre mère, puisqu'il l'a écoutée évidemment beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps, quasi quotidiennement.
Connaître et reconnaître, si on fait entendre cette phrase de Basson avec sa fréquence à un fœtus de 7 mois, il va la reconnaître un peu plus tard quand on fera l'expérience avec lui, venu au monde.
Probablement. Je n'ai pas fait l'expérience moi-même.
Oui, mais vous citez les hommes de science qui l'ont faite. Oui.
Absolument. Oui. Absolument.
Et après, le Babil.
Alors le Babil, c'est une chose que moi j'ai toujours beaucoup aimée, peut-être à cause de mes propres souvenirs de toute petite fille, parce que les areux, et cette manière que les mamans ont de parler à leur bébé, quelquefois je les regarde même dans le métro aujourd'hui, quand le petit, c'est très touchant, parce que, bien sûr, elles s'adaptent, et elles ne lui parlent pas avec les mots qu'elles utilisent dans la vie quotidienne. Il y a toute une... il y a...
Des frottements,
et puis je veux dire des intonations. Des intonations tout à fait particulières, qu'on peut varier, qu'on peut déplacer, qu'on peut changer. Enfin, c'est tout un jeu. Hein.
C'est un peu comme quand on dépose des taches de mercure sur un sol et ça se dilate, ça se rétracte, oui. Ça s'emboîte, oui. Ça se dissocie.
Oui. Alors ça, c'est le Babil. Ouais. Et je trouve que c'est une expérience assez extraordinaire.
Le bébé, il trouve un bonheur,
bien
ravissement.
Bien sûr, il répond. Et c'est un dialogue, le Babil. La maman utilise des mots areux, mon petit chéri, etc., des intonations particulières, et le bébé lui répond. Et c'est ces merveilleux dialogues qui instaurent un attachement très profond. Alors le Babil, en fait, il est à peu près le même sur toute la surface, disons, de notre Terre, jusqu'à 6 mois.
Et après 6 mois.
Presque tous les enfants commencent avec des ta-ta-ta, ba-ba-ba, enfin... Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une variation en fonction de la langue que l'enfant allait parler, c'est-à-dire... Si un enfant va avoir à parler le cantonais, l'arabe ou le français, dès 6 mois se manifestent des variations dans le type de babillage qu'il fait. Les premières variations portent sur l'intonation et le rythme.
Voici 4 exemples de babillage de bébé de 10 mois. Delphine, française. Kateb, arabe. Chang, cantonais. Et Jen, anglaise.
L'émission télévisée Les Jours de la Vie de Daniel Thibault et cette question à vous, Marie-France Castarède. Mais alors, quand le Babil entre dans Babel, le bébé, il perd peu à peu la faculté d'émettre certains des innombrables phonèmes qui caractérisent la langue qui est maintenant celle des autres.
Il va en tout cas préciser la sienne, conjointement à ce que va lui apprendre son père, sa mère, tout le milieu familial. Et alors il y a les bébés qui préfèrent les voyelles et les bébés qui préfèrent les consonnes. C'est assez amusant et on a dit, c'est ça, que les premiers allaient être plus sensibles à la mélodie, au chant, alors que les seconds seront plus sensibles à la grammaire, à l'articulation. Voilà, ça, on a parlé de ces deux formes de baby à propos justement de leur manière d'utiliser très progressivement la parole.
Mais va-t-on me dire, Lebrun, vous faites une émission d'histoire, j'oublie pas, c'est pas seulement un manifeste pour la radio que nous prononçons ce matin. Alors, si la mère d'Henri IV n'avait pas chanté des mélodies à son enfant, avant même sa naissance, il n'aurait pas été constamment d'humeur joyeuse. Et Proust n'aurait pas écrit son œuvre s'il n'avait constamment voulu retrouver la voix de sa mère.
Bien sûr. Et personnellement, j'ai été très attachée dans mes écrits à parler de Marcel Proust parce que, voilà, on sait combien il aimait, il était attaché. Et par pudeur, en fait, les plus beaux textes sont liés à la voix de la grand-mère. Et on a, je crois, justement interprété cela à l'aune de sa pudeur, ne voulant pas trop parler de la propre voix de la mère. Mais il y a un passage absolument magnifique sur la voix de la grand-mère au téléphone, peu avant qu'elle ne disparaisse. Et il y a là toute la sensibilité de Proust à cette communication particulière avec la voix.
Il ne parle pas de la mort de sa mère explicitement, il parle de la mort de sa grand-mère, voilà, qui le sent dans une conversation téléphonique qui va s'interrompre, une conversation téléphonique qui marquait déjà un éloignement géographique.
Exactement. Exactement. Alors, on sait l'importance de la musique. Hein, je veux dire, on s'est longtemps penché sur la sonate de Vinteuil, savoir exactement, et cette mélodie, parce qu'il aimait cette petite phrase, la sonate de Vinteuil. Je trouve qu'il y a des passages sur la musique qui sont magnifiques dans l'œuvre de Proust. Je me suis intéressée à les commenter et à les raconter dans nombre de mes livres.
Le garçon va perdre la voix de sa mère, mais il perd aussi sa voix de garçon pendant la puberté. Le larynx, écrivez-vous, c'est un caractère sexuel secondaire, comme le poil, si vous voulez. Ça grossit beaucoup plus vite chez l'adolescent que chez l'adolescente.
En tout cas, effectivement, la puberté va signer l'avènement sexuel. On peut dire cela en ce sens de la voix. Alors, on le sait, c'est très intéressant. Il y a les voix d'hommes qui resteront dans l'aigu, les ténors, les contre-ténors. On aime les entendre chanter, comme vous le savez. Et puis, il y a les voix de basse, on va même dire de basse profonde. Et alors là, on peut faire quelques incursions du côté de la psychanalyse, parce qu'effectivement, les voix de basse que l'on retrouve dans les opéras, je pense à la voix du commandeur, etc., sont les voix de masculines au sens, on donne un ordre, on a de l'autorité. Et on a une voix de basse, alors que le contre-ténor est plus léger et ne nous assure pas ce point de morale autoritaire. En revanche, dans les voix de femmes, vous avez là aussi la contralte, la magnifique Kathleen Ferrier, célébrée par Yves Bonnefoy dans un très beau poème. Puis vous avez les voix de coloratour, celles qui peuvent chanter la Reine de la Nuit et qui sont effectivement des voix extraordinairement aiguës. Et aujourd'hui, nous avons une Sabine de Vielle qui est une merveilleuse Reine de la Nuit.
Mais vous-même, dans votre spectre, vous arrivez quand même à aller de variation en variation.
Oui.
Chacun dans son spectre.
Dans son propre spectre. Mais nous savons.
De changer de voix.
Nous savons que dans un chœur, vous avez quatre pupitres. Hein, les sopranes, pour les femmes, c'est-à-dire celles qui ont la voix la plus haute, les altos, celles qui sont mezzo-sopranes, peut-être certaines contraltos. Et puis, chez les hommes, vous avez de la même manière le pupitre des ténors et le pupitre des basses. Parce que chacun d'entre nous, voilà, de par toutes sortes de, je vais dire, caractéristiques personnelles liées à, aussi bien probablement à l'épigénétique qu'à l'éducation, va extérioriser une certaine forme de voix.
Alors ici, un homme qui était un orchestre à lui seul, homme de théâtre, écrivain, Antonin Artaud, s'était vu commander en 1947 une émission par la Radio Nationale pour en finir avec le jugement de Dieu. Il sortait d'une longue période d'internement psychiatrique.
Été malade toute ma vie, et je ne demande qu'à continuer, car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne.
délirez, monsieur Arthur. Riez tant que vous voudrez. Mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu.
Alors, on a l'impression que sa voix court dans tous les sens.
Bien sûr. Mais ça, écoutez, c'est son génie, c'est son charme, c'est de nous montrer à quel point lui, tout seul, peut nous faire entendre des choses totalement différentes dans le volume, dans la texture.
Alors, vous employez le mot volume, texture, on pourrait employer le mot grain. Alors, à Lyon, oui, on aime bien employer
oui,
le mot grain.
Bien sûr.
Mais il y a des caractères bien définis qui sont la hauteur, on parlait de fréquence tout à l'heure, l'intensité, le timbre.
Oui.
C'est ça les vrais codes qu'il bien faut sûr. Utiliser, non ?
Bien sûr, vous avez raison, vous avez utilisé les mots qu'il fallait.
Et comment les distinguez-vous ?
Ah ben ça s'étudie, je veux dire, avec des paramètres phoniatriques. Et quand vous allez voir le phoniatre, il sait très bien, justement, si vos cordes vocales sont de telle et telle nature, intensité. Hein, on peut décrire chaque personne par l'entremise de la spécificité de ses cordes vocales.
Allez voir le psychiatre, allez voir le phoniatre, allez voir le psychanalyste. Allez voir le psychanalyste, il vous est arrivé en cure d'avoir, je ne sais pas moi, des gens qui parlaient si bas que vous ne les entendiez pas ?
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, au premier abord, qu'est-ce que c'est qu'une cure analytique ? C'est l'échange et le dialogue de deux voix. Et je vais citer une patiente qui est arrivée chez moi sans voix. Elle avait le langage, elle avait les diplômes qui manifestaient une intelligence spéculative, mais elle ne pouvait pas me dire un mot. Et là, nous sommes obligés de penser que dans sa toute petite enfance, elle n'avait pas pu justement dialoguer avec la maman sur le plan de ce qu'on a appelé tout à l'heure le babil, c'est-à-dire l'échange des affects, des émotions. Parce que dans un babil, on peut rire, on peut pleurer, on peut s'amuser, bon, mais on échange, on dialogue. Et cette patiente n'avait pas pu avoir ce charme de la relation avec la maman. Et venant trouver Marie-France Castarrette comme psychanalyste, elle a été dans la capacité de faire entendre sa propre voix. Et moi, j'étais, et c'est là où je dirais que le divan est une bonne chose, parce que elle était donc allongée bien sûr, et moi j'étais à l'écoute, mais sans objet particulier, donc je pouvais me laisser aller à ma rêverie intérieure, à ma rêverie personnelle, et c'est grâce, j'allais dire, à cette rêverie, je pensais au désert, à l'anaféco, enfin bref, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est à ce moment-là qu'on a pu se retrouver, commencer à se retrouver.
La psychanalyse et rêverie, on apprend ça, c'est aussi le cas de la radio. Bachelard disait que la radio, c'est une rêverie, et ainsi le fleuve, parfois, peut revenir à la mer. Juste un point d'histoire, l'émission d'Antonin Artaud, qui avait été commandée par quelqu'un d'un peu aventureux à la Radio Nationale, n'a pas vu sa diffusion autorisée par le directeur de l'époque, Vladimir Porcher. C'est beaucoup plus tard que l'enregistrement a circulé. C'est une vertu de la radio de permettre aux vivants de regarder la voix des morts. Et à la radio, il y a des chœurs. Vous avez fait partie de chœurs, vous ?
Bien sûr.
Bien vous étiez sûr. Candidate à un chœur parmi 1600 autres,
oui.
Dans une époque
oui,
un peu lointaine.
Oui,
oui. Et ce n'était pas les chœurs de la radio ?
Non, c'était ce qu'on appelait les chœurs de l'Orchestre de Paris, c'est-à-dire des chœurs amateurs. Et chaque membre recruté, nous étions 120 finalement, après une longue attente pour savoir si nous étions recrutés ou si nous n'étions pas, eh bien, on a pu, je veux dire, développer tous les monuments du chant choral, mais amateurs, c'est-à-dire non payés. Et chacun gardait son travail, et les répétitions n'avaient lieu que le soir, à 20h30, pour justement permettre à chacun d'entre nous de pouvoir travailler.
Oui, mais c'est une illusion, le groupe. Votre maître Didier Anzieux l'a bien montré. Vous n'étiez qu'un dans un chœur.
Alors, c'est là où, effectivement, je me suis intéressée, et j'ai intéressé, je crois, mon directeur de thèse, Didier Anzieux, vous venez de le citer, car il avait, lui, conçu ce terme d'illusion groupale, et il nous faisait jouer, nous les étudiants, on constituait des petits groupes, et on regardait comment les choses se passaient, le leader qui arrivait dans le groupe, les discutants, les opposants, et puis on s'apercevait que tout ça, finalement, ne marchait pas, parce qu'il y avait un moment où l'illusion groupale se dissolvait, et on devenait tous, bon, égaux, et le chef devait s'éclipser. Alors que dans le chœur, et j'ai fait un travail de recherche avec chacun des membres de mon chœur, sous réserve d'anonymat, bien sûr, eh bien, on découvre que, précisément, le concert, l'illusion musicale, elle vient de la fraternité du chœur, c'est-à-dire de l'illusion groupale. Et il faut, bien sûr, là, avoir, pour diriger et maintenir cette illusion groupale, un grand chef.
Eh bien, heureusement qu'il y a des chœurs dans notre maison, oui. On va les entendre, parce que c'est un modèle
bien sûr.
Pour la radio.
Bien sûr, les chœurs de Radio France, tout le monde les connaît.
On va les entendre dans Maurice Ohana, le syllabaire pour Phèdre. Alors c'est comme chez Artaud, il y a des morceaux d'intelligibilité qui flottent dans un océan indécis.
Phèdre, qui la reconnaîtrait ? Absente d'elle-même, habitée d'ombre.
Chance très important pour la radio parce que le chant rejoint le primordial dont vous dites ça s'exprimait autrefois dans la mythologie et dans notre temps de rationalité, ça se retrouve dans les voies intérieures du chant.
Alors je pense là à Claude Lévi-Strauss qui a très bien montré comment effectivement la musique et le chant ont pris le relais des mythes. Et quand vous regardez un petit peu les opéras divers et variés, là nous venons d'entendre Phèdre, eh bien nous apercevons d'une extrême diversité qui permet justement de parcourir des mondes extrêmement variés. Hein. Alors vous avez la musique chrétienne bien sûr, et magnifique... Requiem, messe, enfin je veux dire, nous avons là un répertoire splendide, et puis vous avez les opéras qui racontent les histoires, bon, on ne pourrait pas les citer tous bien sûr, mais on les connaît, on les entend, et là vous avez le merveilleux médium de la voix, à la fois des cantatrices et des chanteurs masculins, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cette panoplie assez diverse, vous pouvez écouter Maria Callas, bien sûr,
enfin, plus connue de toutes. Comment on fait pour avoir la voix des dieux ? Là, techniquement, comment je fais ?
Pour avoir la voix des dieux,
il faut que je me tienne comment ? Est-ce que ça vient du haut ? Est-ce que ça vient
sûr,
du sexe ? Est-ce que ça vient de plus bas ?
C'est un tout, je dirais, mais une question de respiration. Hein, ça, on est très précis sur ce point. La respiration, ce qu'on appelle la respiration costo-abdominale, qui n'est pas la même que celle qu'on utilise habituellement. Et puis vous avez, faire des exercices vocaux pour l'entretenir, la voix. Et tout ça vous est donné aussi au départ. Hein. Il y a quelques... Bon, je pense à la Callas, on sait qu'elle a rencontré après une enfance extrêmement douloureuse, née à New York avec une mère qui la rejetait. Elle a pu bénéficier des cours de cet très bon professeur en Grèce où elle est rentrée après ce séjour à New York. Et c'est grâce à cette femme qui, en quelque sorte, était évidemment une deuxième mère pour elle, qu'elle a pu élaborer, transformer et cultiver cette voix magnifique à travers laquelle on entend la douleur. Ça, je le dis parce que j'ai écrit un petit peu sur Callas, à la suite d'un grand psychanalyste qui s'appelait André Green, et on était tous les deux d'accord pour dire qu'elle savait magnifiquement exprimer aussi oui,
mais
la douleur.
C'est une affaire de simplicité, vous dites, il faut retrouver la position qui était celle du bébé dans le Babil. Juste une confidence, moi quand je suis entré à France Inter, j'avais l'impression d'entrer dans la cour des grands, et alors j'avais des fourmillements aux pieds quand j'ai commencé à tenir ce micro. C'est pas bien. Il faut que la parole soit détendue, mais elle s'articule sur des organes qui ne sont pas destinés à la parole.
Non, mais il faut avoir le corps entier détendu. Et c'est très important. Le sourire, hein, on a l'habitude de dire qu'il faut savoir, quand vous chantez, ça dépend quel air, mais néanmoins, le sourire est une expression de détente qui favorise l'expression de chacun dans cet art du chant. Mais tout le monde n'est pas à égalité hein, dans cette... dans cette expression.
Vous parlez toujours de la voix, mais on ne parle jamais de l'oreille. C'est un drôle d'organe, l'oreille aussi.
Bien.
Et de l'écoute de l'autre. Alors, oui. C'est le corps de l'autre aussi.
Oui, alors la psychanalyse, là, dont on parlait tout à l'heure, est à l'écoute, justement, non seulement de la voix, mais des mouvements du corps, de quelque chose qui peut être la crispation, qui peut être au contraire la détente, qui peut être l'abandon, hein. On s'abandonne à pouvoir parler à quelqu'un, pouvoir être écouté, ou au contraire, on est crispé, on se retient. Enfin, le corps est à l'unisson de ce que chacun d'entre nous
veut exprimer. Oui, mais le corps de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, l'effet d'une voix, il tient au désir de l'autre.
Oui.
Bah oui, les voix sont sexuées, oui, non ?
Bien sûr.
C'est pas une psychanalyste que j'avais à apprendre ça.
Bien sûr, mais on tombe amoureux d'une voix. Et la voix compte, je pense, dans l'échange sentimental, dans l'échange, j'allais dire aussi livresque. Hein, je veux dire, les professeurs, vous êtes grands professeurs. Hein, moi, je n'ai pas oublié la voix de certains de mes professeurs que j'admirais particulièrement.
Mais on tombe plus facilement amoureux d'une voix féminine où l'effet est plus fort que d'une voix masculine.
Non, je ne vois pas ça. Oh, vous pouvez admirer beaucoup Dieter Fischer-Dieskau comme Elisabeth Schwarzkopf. Je pense à ces deux chanteurs parce qu'on les a beaucoup comparés. Hein. Donc on disait, tiens, l'une et l'autre peuvent être excellents chacun dans leur partition.
Merci à vous Marie-France Castared. Une partie de votre répertoire est consacrée à la voix, notamment les sortilèges de la voix aux belles lettres et chantons en chœur. Demain, nous parlerons des moines qui chantent en chœur avec une grande enquête menée dans le monde entier, des monastères zen au mont Athos. L'émission a été préparée par Elinka Negulesco avec à la réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Jérémy Guillon.